Qu'y a-t-il ?
Je viens de détecter une déficience de l'antenne radar.
Veuillez vous présenter à l'identification vocale.
Je veux que vous me parliez. Je voudrais vous entendre.
Est-ce excessif ?
S'il vous plaît, répondez-moi.
Cinérama.
Bonjour.
C'est bien. Encore une fois, bien articulé.
Cinérama.
Parlez normalement et détachez bien chaque réponse.
De quoi s'agit-il ?
Question intéressante.
Actualité cinéma.
Ah, un petit mot encore.
Et tout le reste.
En fait, nous avons tous les renseignements utiles. Oui, merci.
Juste un petit détail afin de mettre mon dossier à jour.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Eh bien, oui, je crois que oui.
Oui. Non. Oui, on...
Bonjour et bienvenue, c'est Cinérama aujourd'hui, eh bien avec un spécial Star Wars. Bonjour Manu.
Bonjour Vincent.
Et tu as vu Rogue One ?
Et oui, j'ai vu Rogue One de Gareth Edwards, donc dérivé de Star Wars.
Et puis ce sera l'occasion de jouer un blind test où on va essayer, on va vous faire écouter eh bien, 6 extraits donc, des 6 premiers épisodes de Star Wars, on oublie le dernier. Et eh bien, il suffira pour vous de reconnaître les films que vous entendrez. Et puis, eh bien, on a vu aussi eh bien, une espèce de concurrent en cette fête de fin d'année, c'est Assassin's Creed, concurrent à Rogue One, autre production, autre univers, à mon avis très raté. Et puis sinon, on a vu d'autres films.
Ben, j'ai vu donc un film vraiment différent, un petit film de Asaya, Personal Shopper.
Et puis, eh bien, Marine, elle l'a vu à fond. C'est un film qui sort le 21 décembre. C'est une comédie avec le régulateur de vitesse qui est bloqué et José Garcia qui est au volant de la voiture. On écoutera José Garcia et puis on écoutera aussi le réalisateur Nicolas Benamou voilà, parler de ce film, le défendre. Et puis, eh bien, moi, je vous parlerai de Manchester by the Sea, étonnant mélodrame voilà, à voir en cette fin d'année. C'est Cinérama.
Je ne me souviens pas du nom.
Cinérama.
Si vous voulez appeler ça comme ça.
Alors, qu'est-ce qui pourrait faire l'objet d'une discussion entre la dinde et le fromage pendant le prochain réveillon de Noël ? Peut-être la rivalité entre un Star Wars Rogue One et Assassin's Creed. Les deux super-productions sont censées remplir les salles pendant les fêtes par les amoureux de films à grand spectacle. Alors, si c'est déjà réussi pour Rogue One, avec plus de 1,3 million de spectateurs en 5 jours, et une moyenne de 1400 spectateurs finalement par copie, ce qui est beaucoup, pas certain qu'Assassin's Creed parvienne au même résultat. Alors peut-être faut-il avoir vu le jeu pour se laisser aller à un pareil univers. C'est ce que je me suis dit à la vision de cette super production emmenée par Ubisoft qui avait créé le jeu dont le film s'inspire.
Il se nomme Callum Lynch. Nous avons remonté sa lignée sur 5 siècles, jusqu'au credo des assassins.
Sur le point de se faire exécuter dans un pénitencier américain, Callum Lynch se retrouve dans un lieu hyper sécurisé, alors cette fois-ci en Espagne, où tous les gardiens sont en blanc. Le voilà retenu par les ennemis de son clan, les Templiers. Alors lui, il fait partie des assassins et on va lui assigner une tâche.
Qu'est-ce que vous me voulez ?
Votre passé. Vous allez entrer dans l'animus. Ce que vous allez voir, entendre et ressentir sont les souvenirs de votre ancêtre qui est mort depuis 500 ans.
Attendez une minute !
Bienvenue dans l'Inquisition espagnole.
Alors sa mission, même s'il ne l'accepte pas, car il est quand même en détention et drogué, eh bien c'est retourner dans le passé, dans la peau donc de son ancêtre Aguilar, dans l'Espagne du 15e siècle. Alors à cette époque, les Templiers, aidés par l'Inquisition, tentent de mettre la main sur la pomme d'Éden. Caractéristique intéressante de cette pomme, pas comme les autres, ses pépins renferment l'ADN du libre arbitre. Une formulation audacieuse qui va sans doute intriguer tous les lycéens qui vont passer le bac philo cette année. D'autant que si les Templiers recherchent cette pomme, c'est pour supprimer la violence en ce bas monde, en soumettant plus facilement les hommes. Voilà, ce sera terminé de la violence. Alors entre-temps, ils ont tué leur ennemi, les assassins, ce qui sera une bonne chose de faite. Alors je caricature à peine le scénario qui n'a qu'un prétexte, nous envoyer dans l'Espagne inquisitrice, un pays qui vit de tristes heures, mais dont les enjeux politiques sont vite ennuyeux. Alors même si les inquisiteurs ne sont pas très joyeux, ils permettent qu'on mette des nions et qu'on s'amuse à faire les yamakasi. Alors autant de disciplines dans lesquelles eh bien, Michael Fassbender, qui produit le film, excelle. L'acteur s'est musclé pour se prêter au personnage guerrier dont le corps est rivé à un bras articulé. C'est en fait ce dispositif appelé l'animus qui est situé dans un grand hangar qui permet à ceux qui mènent l'expérience de voir tout ce que voit Callum Lynch en fait. On lui injecte une espèce de produit, il est ensuite projeté dans le passé et les images du passé sont vues par les spectateurs qui sont autour de lui. Alors, en guise de scientifique, animé par la connaissance, eh bien, il y a Marion Cotillard. Elle n'agit pas uniquement selon son clan, tout le contraire de son père, Jeremy Irons, qui, lui, ne vise que les honneurs. Car le but est bien de connaître l'endroit où se cache la pomme, voilà qui va tenir en haleine le spectateur. Le film révèle vite son indigence scénaristique et les dialogues sont d'une pauvreté affligeante, cachant des enjeux tellement manichéens qu'on attend les scènes d'action. Marion Cotillard a même l'occasion de manquer une scène dans les grandes largeurs après sa mort ratée dans Batman qui avait fait tant parler. Eh bien là, elle n'y est pour rien. C'est simplement les dialogues qui sont mal écrits et les scènes qui sont vraiment mal écrites aussi. Alors si ce n'est donc qu'elle aurait pu éviter de se retrouver dans un tel projet, c'est le même cas pour Ariane Labed, actrice qu'on voit plutôt dans les films d'auteur, hein, Fidelio, l'Odyssée d'Alice ou The Lobster. Mais bon, elle s'en tire mieux parce qu'elle ne parle pas.
Mais c'est assez curieux d'ailleurs de se retrouver avec un film comme ça, avec un casting 4 étoiles, on va dire, parce qu'il y avait aussi Denis Ménochet qui joue dedans.
Et il y a Charlotte Rampling.
Alors qu'à une époque, c'était plutôt, on aurait davantage vu, on va dire, quelqu'un comme Christophe Lambert ou Jean-Claude Van Damme dans une production de ce type.
Mais ouais, mais du coup, je sais pas, ils vont chercher, alors peut-être les honneurs, mais j'en doute. Peut-être l'argent, peut-être, on ne sait pas. Alors, comme c'est adapté d'un jeu vidéo, l'univers visuel semble, lui, être fidèle. Alors, c'est la seule réussite à grands coups d'effets spéciaux numériques. Le réalisateur Justin Kurzel, à qui l'on doit Macbeth, à force de filmer des coups de pied et des nions, tente bien de varier les postures, mais même ça, ça devient lassant. On a envie que la farce s'achève et pourquoi pas aller du côté de Star Wars, qui sait davantage nous raconter des histoires. Alors, le film, finalement, aurait gagné à être plus léger, que ce soit dans son dosage de l'action, pardon, que dans la manière de dérouler l'intrigue, en fait. Enfin, ça se prend très, très, très au sérieux. Il y a quelques scènes où on respire un peu, mais voilà, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de scènes d'action et qui, au bout d'un moment, deviennent inutiles.
Je pense que les jeux vidéo, quand on enlève l'interactivité, en fait, d'un jeu et on transpose cet univers au cinéma, bah, c'est globalement raté. Il y a très, très peu de réussite dans le genre.
Ça commence à me plaire.
Et la transition est toute trouvée, nous allons passer de Assassin's Creed à Rogue One.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama.
C'est un passe-temps surprenant.
C'est une rébellion, non? Je me rebelle.
On remonte d'un cran, même si j'ai pas été totalement emballé par Rogue One, hein, du coup. Hein. Alors précédé quand même d'échos très favorables, hein, cette fausse préquelle de Star Wars, pourrait ironiquement s'intituler 3,5, puisqu'elle se situe chronologiquement entre l'épisode 3, La Revanche des Sith, réalisé en 2005, et l'épisode 4, La Guerre des Étoiles de 77. Alors l'an dernier sortait l'épisode 7, aujourd'hui donc sa moitié avec Rogue One. Alors je pense qu'à un moment donné, les auteurs vont se prendre les pieds dans le tapis et plus personne ne comprendra rien à la chronologie d'une saga qui finit par sentir l'opération marketing quand même, hein, ce qui n'empêche pas la qualité d'être bien présente. Hein. Alors en attendant, Rogue One se présente comme l'épisode censé nous éclairer sur l'ouverture du premier film de la série réalisé par George Lucas, à savoir l'attaque de l'étoile de la mort par les rebelles. Rappelez-vous, la princesse Leia débarquant, pistolet laser à la main, sur le vaisseau de Dark Vador. Alors, nostalgie, hein, mais la mise en place de l'histoire artificielle compte tenu des impératifs commerciaux est assez laborieuse, malgré une évidente volonté d'étoffer un discours politique, un peu simpliste, hein, et de donner une certaine épaisseur à des personnages entièrement nouveaux pour la plupart. Alors, en pleine guerre civile intergalactique, les populations de chaque planète doivent faire face à la nouvelle arme de l'Empire galactique, l'Étoile de la Mort. Un groupe de résistance unit pour voler les plans créés par Galen Erso, interprété par Mads Mikkelsen. Alors, scientifique prisonnier travaillant malgré lui pour l'Empire, parmi eux se trouve la fille de Galen, Jean Erso, et le capitaine Cassian Eddore. Mais ce dernier a pour mission d'assassiner le père de Jean, accusé de haute trahison par les rebelles.
Une arme décisive est sur le point d'être testée. Il faut que nous sachions ce que c'est et comment la détruire.
Qu'est-ce que tu feras sous la contrainte? Si tu continues à te battre, qu'est-ce qu'il adviendra de toi?
Alors la fausse complexité du scénario, elle est rapidement éventée. Hein. Il s'agit ni plus ni moins d'une lutte manichéenne, bah, du bien contre le mal, avec toutefois l'apparition très réussie de Dark Vador, 11 ans après le 3, dans une séquence qui en impressionnera plus d'un. Alors Rogue One démarre lentement, se drape dans un sérieux assez plombant, proche de l'univers de Christopher Nolan, hein, mais bizarrement désamorcé par un humour enfantin en décalage et qui tombe constamment à plat. La photo monochrome privilégiant les teintes sombres reflète les intentions de Gareth Edwards, réalisateur de l'ambitieux mais raté Godzilla. Alors Rogue One se rêve en fable politique sur la résistance à la dictature avec sacrifice à la clé. Cette dimension est par ailleurs opportuniste. Hein. Certains vont louer l'initiative de faire mourir tous les personnages principaux à la fin du film. Bon, je spoil, mais je pense que c'est un secret pour personne. Mais quand on y réfléchit, les auteurs pouvaient faire autrement puisqu'un des héros de ce film n'apparaît, aucun des héros n'apparaît dans le 4. Alors parmi les méchants, on retrouvera néanmoins Darth Vader et Orson Krennic prenant à nouveau les traits d'un Peter Cushing entièrement numérisé. Alors cet effet spécial, qui prête à polémique, peut effectivement troubler, voire déranger le spectateur. L'effet est sidérant de crédibilité, hein, ce qui ne laisse pas d'interroger sur l'emploi que l'on va faire en fait, des comédiens morts à l'avenir. Bah, c'est... Mais bon, ceci est un autre débat. Hein. Mais c'est vrai que c'est assez troublant et même, je dirais, dérangeant. Même si en observant bien le visage de Peter Cushing, on voit que c'est du faux. C'est un acteur qui était derrière et qui a prêté donc, son physique. Ouais. Voilà, bon. Les 45 dernières minutes, enlevées et assez brillantes, cela dit, relèvent le niveau et assurent le spectacle, hein, pour celui pour lequel on s'est toutefois déplacé. Gareth Edwards y insuffle davantage de réalisme que dans les autres opus. Certaines séquences sont impressionnantes, un peu comme dans un film de guerre. Hein. C'est une guerre d'ailleurs bien présente, hein, plus que le côté étoile et rêve, qui était plus présent dans le film plus poétique, à mon avis, de J.J. Abrams. Alors on va dire que c'est efficace, plus belliqueux que subversif dans son discours. Rogue One se laisse voir sans rougir, mais pâtit franchement, je trouve, d'un manque de générosité, de légèreté et d'émotion. Alors tout ce qui faisait justement le prix, pour moi, du précédent, qui a été injustement, je trouve, un peu descendu par les fanboys de la saga. Ouais.
Bon, en tout cas, là, tu parles de fable politique et d'humour enfantin, ce qui est absolument absent de Assassin's Creed dont on parlait juste avant. Et c'est peut-être une des raisons qui fait qu'il vaut mieux aller voir Rogue One.
Ah oui, je pense que c'est plus agréable. Au moins pour la seconde partie, elle est quand même, c'est quand même enlevé. On prend un certain plaisir, mais je trouve que c'est très laborieux au départ. Et le film a le défaut de se draper dans un sérieux un peu trop plombant. Hein, du coup.
Alors, mais que ça ne nous empêche pas de jouer un blind test spécial Star Wars. Donc, on a éliminé le dernier film, le dernier épisode de la saga, le numéro 7, donc de J.J. Abrams. Et on va écouter donc 6 extraits de la saga Star Wars. Et il faut bien, en quelque sorte, bien trouver chaque extrait. À toi, Manu.
Que désirez-vous, mon maître? Il y a soudain un grand trouble dans la Force. Je l'ai senti. Nous avons un nouvel ennemi, le jeune rebelle qui a détruit l'étoile noire. Tout me conduit à penser que ce garçon est le fils d'Anakin Skywalker.
Comment est-ce possible?
Lisez dans votre cœur, Seigneur Vador, et vous comprendrez que c'est la vérité.
Bon, déjà, il y a Vador, donc ça élimine déjà pas mal d'épisodes.
Voilà, ça en élimine certains. Donc, c'est l'Empire contre-attaque d'Erwin Kerschner.
Voilà, il était possible de placer « Je suis ton père », mais on ne l'a pas fait. Deuxième extrait.
Personne ne peut tuer un Jedi.
Puisses-tu avoir raison?
Dans un rêve que j'ai fait, j'étais un Jedi. Et je revenais ici libérer tous les esclaves. Vous êtes venu pour nous libérer?
Non, malheureusement, non.
Moi, je crois que c'est pour ça. Pourquoi vous seriez venu, sinon?
Ah, le petit enfant qui pense que les Jedi ne meurent pas.
Bah donc c'est la menace fantôme.
Oui, avec le jeune Anakin, c'est le renouveau de la saga, et puis les débuts. Troisième extrait.
Quand je pense à ce que nous avons traversé, je n'en reviens pas que nous soyons encore en état de marche. Avec cette rébellion et tout ça.
Tu es au courant de la rébellion contre l'Empire?
C'est même à cause d'elle que nous sommes maintenant chez monsieur.
Tu as vu des batailles?
Plusieurs, enfin je crois. Mais je n'ai pas grand chose à dire. Je suis un interprète, je ne sais pas très bien raconter les histoires. Ou du moins je n'arrive pas à les rendre intéressantes, hélas.
Attends. Mon petit ami, fais voir. Tu as quelque chose de bizarre coincé sous le col. Vous étiez sur un croiseur astral et...
Obi-Wan Kenobi, vous êtes mon seul espoir.
Qu'est-ce que c'est?
Et alors? Monsieur t'a posé une question, réponds.
Au secours, Obi-Wan Kenobi. Vous êtes mon seul espoir.
Alors là, il y a un peu tout le monde, hein. 6PO, R2-D2, Luke et Leila, sous forme d'hologramme.
Donc c'est la guerre des étoiles.
Voilà. Donc le numéro 4 de la nouvelle nomenclature, mais le numéro 1 historique.
Vous ne venez pas, maître?
Oh non, je ne suis pas taille à affronter les politiques, et je dois informer le conseil. Par ailleurs, tu présentes beaucoup mieux que moi.
Non, attendez. L'idée de cette mission, c'est à vous qu'on la doit.
Dois-je te rappeler que c'est grâce à toi que j'ai échappé au vibro-droïde qui m'attaquait, que tu as tué le comte Dooku et que tu as sauvé le chancelier tout en me portant inconscient sur tes épaules?
Grâce à votre enseignement.
Anakin, ce ne serait pas juste. Aujourd'hui, c'est toi le héros. Et tu as mérité ton heure de gloire auprès des politiciens.
D'accord, mais vous me le revaudrez, et pas parce que je vous ai sauvé une 10e fois.
Une 9e fois. Ce qui s'est passé sur Caton et Moïdia, ça ne compte pas. On se voit tout à l'heure.
Ils sont presque potes, c'est un peu l'aspect humoristique avec une espèce de distance sur l'héroïsme. C'est...
La revanche des Sith.
Voilà.
Mais bon, je n'ai pas trouvé, hein. Je crois que je ne l'ai vu qu'une seule fois, en fait, celui-là.
Épisode 3, en tout cas. Allez, encore un extrait.
Luke, aide-moi à retirer ce masque.
Mais vous allez mourir.
Rien ne pourra l'empêcher maintenant. Pour une fois, laisse-moi te regarder avec mes propres yeux.
Et oui, s'il y a Je suis ton père, qui est une séquence fondatrice, il y a aussi celle-ci, qui termine quelque chose. C'est
le retour du Jedi.
Et oui. Dernier extrait.
Tu as le droit d'aimer ? Je croyais que c'était interdit aux Jedi.
L'attachement est prohibé. La possession est prohibée. La compassion, qui est à l'amour à la fois inconditionnel et infini, est un des fondements de la vie du Jedi. Donc on pourrait dire qu'on nous encourage à aimer.
C'est fou ce que tu as pu changer.
Vous n'avez pas du tout changé. Vous êtes restée exactement la même que dans mes rêves.
Voilà, une petite poussée hormonale pour Anakin, hein, quand même, faut le préciser. C'est...
Bah, c'est l'attaque des clones,
oui,
hein, l'adolescence d'Anakin.
Et la future paternité voilà, qui est en reflet ici. Ainsi s'achève ce blind test spécial Star Wars. Voilà, l'occasion bien de la sortie de Rogue One.
Je ne me souviens pas du nom.
Cinérama.
Les hommages.
Et on va passer à tout autre chose, puisque de deux grosses productions américaines, on va passer à eh bien, une comédie française, c'est ainsi. C'est À fond, de Nicolas Benamou, avec José Garcia et Caroline Vigneux, notamment, qu'on va écouter. Et c'est surtout Marine qui a vu le film et qui a rencontré eh bien, l'équipe du film.
Le concept était plutôt bon. Une famille parisienne bardée de conflits internes et de petits secrets prend la route des vacances dans son nouveau monospace. Il y a Tom, interprété par José Garcia, chirurgien aujourd'hui plus intéressé par le botox et l'argent que par le fait de sauver des vies. Il y a sa femme Julia, enceinte jusqu'aux yeux et passablement agacée par sa vie de famille. Il y a les enfants dont je ne me souviens même plus des prénoms et qui de toute façon ne savent rien dans le film, donc ce n'est pas très grave. Et puis il y a Ben, le beau-père encombrant, interprété par André Dussolier, qui a du mal à sortir de l'adolescence malgré ses 75 ans. L'ambiance dans la voiture est donc à son comble lorsque le régulateur de vitesse se bloque à 160 km/h sur l'autoroute.
Et vous avez le régulateur de vitesse.
Impossible de freiner, un embouteillage monstrueux les attend 200 km plus loin. Mais comment cela va-t-il se terminer? Eh bien déjà, ça va se terminer sans nous faire rire une seule seconde, hein, ce qui est quand même un peu problématique pour une comédie. On pouvait en attendre plus de la part du réalisateur Nicolas Benamou, qui avait réalisé le réussi Babysitting, mais qui, ici, ne fait strictement rien de son sujet. On aimerait justement que la réalisation passe la seconde, mais à part Caroline Vigneault, dont c'est le premier rôle au cinéma et qui se donne à fond justement, eh bien le reste de l'équipe, équipe technique comprise, semble s'être endormie, ce qui donne une comédie ultra poussive, presque gênante et désagréable à regarder. José Garcia est totalement désincarné, l'humour est lourd, beauf, les effets spéciaux sont mauvais et à aucun moment nous n'avons la moindre sensation de suspense, tout cela pour un budget évidemment monstrueux puisque les contraintes techniques ont été énormes. On écoute justement toute l'équipe du film nous en parler de ces contraintes techniques et vous allez voir, ils ont un tel enthousiasme qu'ils parviendraient presque à nous vendre le film.
Quand il y a des gens qui parlent dans l'image, vous pouvez pas accélérer, sinon vous avez Benny Hill. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a un moment où il faut se mettre à la vitesse qu'on veut ressentir, il faut qu'elle soit effectivement prise au tournage.
Le régulateur de vitesse est mort.
On a choisi l'option la plus compliquée pour tourner ce film, c'est-à-dire celle avec le moins de confort. On ne s'est pas du tout mis dans un studio, sur des fonds verts, ou avec des images de synthèse ou quoi que ce soit. On a été se mettre dans la vraie situation qui est décrite dans le scénario, sur une route, avec les acteurs vraiment dans la voiture, vraiment en train de rouler à 130 km/h. Et du coup, les contraintes, elles ont été multiples. Chaque jour, il y avait son lot de contraintes. Mais bon, ça a été un jeu, ça a été un jeu assez exquis parce qu'il a fallu les régler, puis on s'est rodé petit à petit. On a effectivement choisi l'option la plus compliquée.
Qu'est-ce qu'on fait pour désactiver le régulateur de vitesse?
Il suffit de freiner, ça le désactive automatiquement.
Il fallait que les acteurs soient dans la voiture avec les caméras dessus, les caméras pilotées dans un autre véhicule par une équipe technique, le tout qui se déplace, tout se déplace en même temps. Donc les techniciens, les maquilleuses, les coiffeurs, tout le monde se déplace en même temps. C'est un peu la caravane du Cirque Pinder, quoi.
Dysfonctionnement système.
Le voyant ABS est allumé.
Dans ce cas-là, si vous freinez, le tête-à-queue est tonneau garanti, monsieur Cox. Vous n'avez qu'une chance résiduelle de vous en sortir.
C'est-à-dire ?
Aucune, monsieur Cox.
Alors, André Dusselier, ainsi que tous les acteurs qui ont joué dans le film, José, Caroline, Vincent Desagna, les enfants, tous les acteurs ont fait leur propre cascade. Ça fait partie aussi un petit peu du cahier des charges qu'on s'est fixé, de se dire, voilà, si on le fait vraiment, on le fait vraiment, quoi.
Bon, maintenant, ça suffit. Tu prends la prochaine sortie et tu t'arrêtes, docteur.
En fait, là, je crois qu'il peut pas s'arrêter techniquement. C'est bien ça, toi?
C'est un mytho. Il veut m'empêcher de retrouver ma mère.
Ce n'est pas un mytho. Je suis psychiatre à l'hôpital. Je sais reconnaître un mythomane. Je sais aussi reconnaître quelqu'un qui va passer à l'acte. Vous n'allez pas le faire.
C'est un mytho. Et toi, je te chie dessus. Arrête ta bagnole, abruti.
Hé, tu traites pas mon papa d'abruti, connasse!
Noé, ça va pas?
Ouais, tu chies pas sur ma mère, pauvre chiasse.
Lisons.
Non, mes enfants, c'est dommage. Restons courtois.
Essaye de dire sur mon papa avec moi.
C'est pas cool, Mélodie.
Arrête-toi ou je pique le grand-père.
Ah non, c'est vraiment pas cool, Mélodie.
C'est quoi, hein? Vous faites partie d'une secte? C'est un suicide collectif? Ça recommence, c'est ça?
Il y a une espèce de petit sourire le matin, c'est qu'on s'est retrouvés sur la route, on s'est dit, personne l'a jamais fait, ouais. Quoi. Donc on va découvrir, et donc on a démarré avec les camionnettes. Il y avait tellement de tops de tous les types, des 200 cascadeurs qui passaient, qu'on leur a dit, putain, il nous a dit, allez, action, putain, top, 6-4, les bagnoles qui commençaient à passer. On s'est arrêté, on a fait, oh là là, là, on va falloir se calmer. Et après, on a commencé à se roder, même pour nous, c'était très particulier. Parce que nous, on était en réalité augmentés, quoi. Nous, c'était vraiment les Pokémon. C'est-à-dire que d'habitude, quand on est acteur, on est dans une voiture, mais quand on voit une situation, on invente la situation, parce que les caméras sont dans notre regard. C'est la première fois où, quand on dit « attention, ça freine », il y a un véhicule qui freine vraiment devant nous, quoi. Donc à chaque fois, il faut déboîter, il faut partir, il y a un autre véhicule qui vient percuter. C'est jubilatoire.
Voilà, c'était Nicolas Benamou, José Garcia pour le film « À fond », comédie française sur les écrans, le 21 décembre.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations?
Cinérama.
On va regarder ça.
Dans la fratrie Affleck, Ben fout des baffes et Cazet, le genou, en prend. C'est l'image qu'on pourra voir en regardant la filmographie des deux frangins, quoique d'un Manchester by the Sea, quand on le voit dans un bar, Lee, homme à tout faire, vivant à Boston, donc interprété par Cazet Affleck, est du genre à choisir un prétexte de baston plutôt que de papoter avec une jeune femme qui aimerait faire la conversation et peut-être plus. Alors, quelle souffrance pousse Lee à agir ainsi? Nous avons tout le film pour l'apprendre. Manchester by the Sea commence d'ailleurs avec un flashback. Nous sommes sur un bateau de pêche, il ne fait pas particulièrement beau ni particulièrement vilain, et la météo sera un paramètre du film. Et Lee s'amuse avec son neveu, un neveu qui va devenir central car il va se trouver quasi orphelin, et par testament, Lee va devoir s'en occuper. Problème, on ne le sent pas investi émotionnellement, et il ne voit pas sa vie à Manchester by the Sea, ville où il a vécu par le passé. Il voit sa vie plutôt à Boston, même si son travail ne paie pas et qu'il vit dans un gourbi.
Je comprends pas, là.
Quel point vous pose problème?
Je peux pas être le tuteur. Je peux pas être le tuteur.
Je croyais en toute sincérité que votre frère en avait discuté avec vous.
Non. Il a rien dit. Non.
Je suis désolé, mais j'avoue être un peu pris de court.
Il peut pas vivre avec moi, tout ce que j'ai, c'est une chambre.
Joe a tout prévu pour que Patrick ne soit pas dans le besoin. Nourriture, vêtements, etc. Et la maison et le bateau sont tout à lui.
Et je ferai la navette de Boston tous les jours jusqu'à ses 18 ans.
Je crois qu'il avait en tête que vous déménageriez.
Que je déménage? Où ça?
Ici. Si vous réfléchissez, c'est... Enfin, comme vous le voyez, votre frère a tout planifié avec énormément de soin.
Il a pas dit ça. C'est pas ce qu'il voulait dire.
Oui, donc c'est pas facile. Manchester by the Sea, c'est donc l'histoire d'un deuil, mais aussi d'une reconstruction dans une veine mélodramatique. Pour mener son récit, le réalisateur Kenneth Lonergan nous laisse dans le présent et l'enjeu de ce tutorat, mais il nous plonge aussi dans le passé. Lee a vécu à Manchester by the Sea, donc une ville américaine au bord de la mer, avec femme et enfant. Ce qui est plutôt habile, c'est que le drame ne se joue pas dans l'histoire présente où son frère est mort. Alors, il est atteint d'un problème cardiaque, donc sa disparition n'est pas une surprise, même pour son fils. Non, le drame se joue dans le passé. passées, dont certaines séquences, des plus anodines aux plus fortes, eh bien, pourraient soulever quelques larmes, au moins nous bouleverser. Mais la mise en scène nous garde bien du pathos, ne surlignant rien et préparant minutieusement le terrain. Dans le présent, Lee y est endurci, pragmatique, n'hésitant pas à emmener son neveu de 16 ans au funérarium et discuter congélation du défunt. Et quelque chose a brisé Lee, interprété par un Casey Affleck intériorisant tout et qui, au gré de ses rencontres, eh bien, voit ressurgir des réminiscences du passé. C'est bien pratique pour le spectateur qui comprend comment il en est arrivé là. Alors, si les souvenirs appartiennent au passé, le présent montre une autre figure pour Lee qui doit s'occuper de son neveu. Le portrait du neveu n'est pas sans saveur. Il semble impassible à la mort de son père, partagé entre deux copines, s'opposant à son oncle, avant un retournement des plus savoureux pour un film qui ne cherche pas les faits à tout prix. Les quelques apparitions de Michelle Williams du passé au présent renforcent un effet mélodramatique qui n'est jamais grossier. Le film orchestre des sentiments semblables au temps qu'il fait, le froid surtout, avec le vent qu'on entend s'infiltrer dans les maisons, et peut-être la pluie, le gris d'un printemps qui tarde à arriver. Le film a l'apparence d'une facture classique, c'est peut-être parce qu'il ne semble y avoir aucun défaut. Direction d'acteurs pointus, scénario cachant bien ses ficelles, et mise en scène qui orchestre passé et présent sans jamais s'en mêler. Manchester by the Sea est un peu comme quelqu'un qui ne ferait pas son âge et ne fait pas son temps de plus de 2 heures. Je crois que ça fait 2 heures, presque 20 minutes. Voilà. Et c'est à voir en ce moment sur les écrans.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama.
On va regarder ça.
Personal Shopper d'Olivier Assaya, présenté donc cette année au Festival de Cannes dans Sélection officielle, et dont il a remporté d'ailleurs le prix de la mise en scène. Alors Maureen, une jeune américaine exilée à Paris, s'occupe de la garde-robe d'un mannequin célèbre. Bon, elle n'affectionne pas particulièrement ce travail alimentaire et futile, mais ça lui permet de payer son séjour. En fait, elle attend que se manifeste l'esprit de son frère jumeau disparu. Parallèlement, elle reçoit aussi d'étranges SMS sur son portable, nouant ainsi une relation virtuelle aussi excitante que dangereuse. Alors après Sils Maril, Olivier Assaya retrouve Kristen Stewart pour un film séduisant sur le papier, mais vite agaçant et vaporeux dès les premières minutes. Alors on ne croit pas un instant au personnage de Maureen, trop artificielle alors qu'elle est censée être naturelle et spontanée. Le jeu forcé, un peu comme dans les séries américaines de l'actrice, empêche vraiment l'adhésion. Hein. Olivier Assaya est un bon cinéaste, capable de nous transporter quand il prend à bras le corps ses sujets. C'était le cas avec, je trouve, son magnifique mélodrame Clean avec Maggie Cheung, ou son vibrant portrait d'une jeunesse dans la tourmente des événements de 68 avec Après mai. Alors cet ex-critique des cahiers, admirateur de Tuark et de John Carpenter, devient étrangement hermétique et distant dès lors qu'il s'attaque au cinéma de genre, qu'il a pourtant toujours défendu ardemment. Alors Demon Lover et Boarding Gate peinaient à convaincre, malgré des atouts très alléchants, hein, Connie Nielsen et Sonic Youth pour le premier, et la présence d'Asia Argento et Michael Madsen pour le second. Personal Shopper souffre des mêmes carences, à savoir un rapport distant et trop cérébral au genre, jamais vraiment dedans, toujours un pas sur le côté. On voit bien où le cinéaste veut nous embarquer, hein, quelque part vers ce territoire poreux où cohabitent les morts et les vivants. Les rares apparitions des spectres demeurent ce qu'il y a de plus beau et mystérieux dans ce film. Assaya échoue en fait là où Kiyoshi Kurosawa réussit à nous impliquer en deux plans. Ce dernier s'empare du fantastique pour l'apprivoiser, le poétiser. Assaya, lui, brouille les pistes, hésite entre les genres, les tons et accouche d'un petit objet abscon et prétentieux d'une rare vacuité. Alors en hésitant entre la critique du monde de la mode, le surnaturel et le thriller, on va dire, post-moderne à base de textos, il échoue un peu sur tous les tableaux. Alors non, un personnage shopper n'est pas non plus un navet. Juste un petit thriller, un télo, épuisant à force de nous perdre. Assaya est un filmeur hors pair, ce qui sans doute lui a valu le prix de la mise en scène. Hein. Alors concoctant quelques séquences vraiment envoûtantes sur le plan graphique, hein, l'apparition en arrière-plan du frère jumeau lâchant un verre provoque un frisson passager, une émotion singulière faisant cruellement défaut à cette production d'une froideur presque repoussante. Alors ces rares éclats ne suffisent pas à maintenir l'intérêt d'une œuvre qui se regarde, à mon avis, un peu trop le nombril et qui laisse un peu le spectateur sur le côté, quoi.
Filmographie quand même fournie pour Assaya.
Oui, oui. Puis en plus, c'est un cinéaste que j'aime plutôt bien. Hein, mais à chaque fois qu'il traite vraiment le cinéma de genre fantastique, le thriller, il n'ose pas. Il reste dans ses positions un peu d'auteur. Et c'est un peu dommage.
Et il poursuit un petit filon avec Kristen Stewart, du coup. Parce que c'est le deuxième film avec l'actrice américaine.
Mais il avait déjà fait la même chose avec Maggie Cheung, puisqu'il l'avait fait tourner dans Irma Vep, puis Clean.
Alors méfiez-vous des apparences et contrôlez toujours qui est qui.
Qui est qui?
Il va pas contrôler qui est qui.
Quoi, qui est qui?
À quoi, qui est qui, quoi?
Eh bien, qu'y a-t-il?
Auriez-vous oublié que nous partons?
La séance est levée.
Je crois que nous n'avons plus rien à nous dire.
Inutile d'avoir des regrets, c'est trop tard.
Alors Marine n'était pas présente à cette émission, mais quand même un petit peu. Toi tu y étais, mais tu n'y seras pas la semaine prochaine. En fait, il n'y aura personne, mais juste Dominique Pinon que j'ai pu rencontrer. J'ai pu marcher dans la ville avec lui. L'acteur de Délicatessen se dévoilera au micro de Cinérama.